Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Espace et l'inconvénient. Au programme, la tuque en train et nos vies effleurées. Bonne écoute.
La tuque en train des neiges. Un texte de Barclay Fortin paru dans le volume 28, numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace. Vous rêvez de prendre un train comme le faisaient jadis les skieurs qui sillonnaient les Laurentides? On a testé un plan pour vous. Voyager en train pour aller passer un week-end des neiges dans une ville dont le nom est fait pour l'hiver. Ça y est, on est parti, pour vrai. Voilà ce que je me dis quand le train qui m'amène à la tuque s'arrache enfin à l'île de Montréal en survolant la rivière des Prairies. On est vendredi, il est 10h du matin et on est à bord depuis 8h15. Parti en retard de la gare centrale, mon train des neiges a fait un long détour par le sud-ouest et beaucoup de surplace avant d'échapper à la métropole. Mais peu importe, maintenant qu'on file à travers les champs, la magie opère. Le train siffle, les arpents de neige défilent, je suis transporté dans l'inconnu. Le train nous fait voyager en coulisses. Il court la campagne, perce la forêt, fend les villages, qu'il nous fait voir de l'intérieur. Mettons que Saint-Tite a l'air encore plus western vu du chemin de fer. Le prix à payer? C'est la lenteur. Quand ça roule, mais quand on s'arrête. C'est surtout vrai à Hervé Jonction, l'escale où notre convoi doit se diviser en deux. Une moitié est en route vers le Saguenay, l'autre va m'amener à la tuque avant de rallier Sainte-Terre en Abitibi. À bord, Lucie, notre hôtesse du rail, entretient la bonne humeur en animant son wagon comme Chantal Lamarre le fait avec une émission de télé. Les yeux dans ma fenêtre, je regarde passer les minutes. Quand on repart, mon train des neiges est réduit au minimum. Une locomotive, un fourgon à bagages et un wagon bien rempli. Dehors, on est dans les conifères et des collines enneigées jusqu'aux oreilles. À la tuque avec pas de char. Quand on arrive à la tuque vers 14h, je ziote l'une des attractions qui m'a donné l'idée de ce voyage de plein air par le chemin de fer. Les pentes de la station de ski locale qui surplombe la ville, à un jet de pierre de la gare. Parfait pour un voyageur en train sur le point de devenir un voyageur à pied. Je remarque qu'il y a un poste de taxi juste à côté de la gare. Mais la Villa du Charme, mon gîte pour le week-end, se trouve à portée d'un marcheur qui trimballe son sac de voyage et sa gaine à ski. L'après-midi est avancé quand je finis de m'installer, mais ici on peut encore profiter de l'hiver à cette heure-là. La preuve, j'ai un rendez-vous randonné avec Claude Philibert, le dynamique président du tout aussi dynamique Club des Trois Raquettes. Au fil des années, ce club a tricoté au bord de la tuque un très vaste réseau de sentiers accessibles en ville à partir de la station de ski alpin. En raquette, je suis mon guide sur un sentier qui gravit la montagne de ski. Très vite, on perd de vue la civilisation. C'est la particularité ici. Même proche de la ville, on est plongé en forêt. Explique Claude Philibert alors qu'on atteint notre modeste objectif de fin d'après-midi, le Camp Bleu. C'est une jolie cabane en bois rond, parfaite pour casser la croûte. Mais mon guide me sert une autre gâterie. Un belvédère naturel qu'on rallie juste à temps pour voir le soleil se coucher sur la ville, qu'on peut voir au pied de la montagne. Belle façon de me rappeler pourquoi je suis venu à la tuque en train plutôt qu'en auto. Vous écoutez « La tuque en train des neiges », un texte de Barclay Fortin paru dans le volume 28 numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace. Du ski pour tous les goûts. Samedi matin, mes skis et moi sommes invités à une avant-première. Ça se passe à 5 minutes en auto du centre-ville, dans un secteur où le club des Trois Raquettes travaille à convertir d'anciens chemins forestiers en sentiers de ski de fond hors piste. Je suis avec un groupe de skieurs locaux mené par M. Philibert. On monte dans un large chemin puis dans un joli sentier étroit. Cet été, on va construire un relais au bout de ce sentier, m'explique Claude Philibert quand on dépasse une pile de matériel qui dort sous la neige. L'ouverture officielle de ces sentiers de ski nordique est prévue pour l'hiver 2022-2023. Et ça promet. Si je me fie à cette virée qui nous a aussi menés à un superbe lac entouré de collines. Sur l'une d'elles, le club compte bientôt bâtir un autre refuge où on pourra passer la nuit. À suivre, donc. Grâce à la proximité de tout ici, mon samedi de glisse comporte une deuxième escale. Ski La Tuque, la station de ski alpin qui fait carrément partie de la ville. C'est doublement vrai puisque la montagne est exploitée par la municipalité. Résultat, à La Tuque, la glisse est abordable. Même les touristes ont droit à un deal dont le nom est inspiré de la route qui dessert la région, la passe 155. C'est une journée de ski pour toute la famille, maximum 4 personnes, offerte à $55 à tous ceux qui habitent à plus de 100 km. Modeste avec ses 166 mètres de dénivelé, la montagne m'en a quand même mis plein la vue et les skis. Et comme elle reste ouverte jusqu'à 20h le samedi, j'y ai croqué ma plus belle image mentale du week-end, la ville qui brille dans la nuit alors que je descends vers elle en pilotant mes planches. Mon problème du dimanche matin. Le club de ski de fond, La Tuque Rouge, est un peu trop loin pour que je m'y rende à pied. Ma solution, tenter d'y aller en ski via une piste cyclable qui commence pas loin et qui va jusqu'au club. Coup de chance, il neige fort sur La Tuque quand je me mets en route. Une courte marche plus tard, je glisse dans la poudreuse qui recouvre le fond durci de la piste cyclable. Quand j'arrive au club, son président, Yves Greffard, peste un brin contre cette bordée qui a enseveli ses pistes. « C'était tellement beau hier », lance-t-il à un autre bénévole qui s'en va damer les sentiers de vélo-neige qui côtoient les pistes de ski. Ces pistes se déploient au bord du Saint-Maurice. Entre le plateau où se trouve le chalet d'accueil et la rivière, il y a une 40aine de mètres de dénivelé qui ajoute quelques bonnes côtes au réseau. Fendant la nouvelle neige, mon guide m'amène au bord de la rivière, puis au relais du club par de larges corridors, classiques et skate. La majorité des pistes du club sont dans ce style hybride permettant de skier en ornière ou d'exercer son pas de patin, mais il y a aussi quelques sentiers plus étroits réservés aux classiques. Près du relais, la grosse dameuse du club nous dépasse en moulant des sillons parfaits et un impeccable couloir de pas de patin. Monsieur le Président est ravi que la visite voit ses sentiers à leur meilleur. Mais la vraie bonne nouvelle de la journée, c'est que l'horaire du train laisse aux voyageurs le temps de profiter de leur dimanche à La Tuque. Mon départ de la gare est prévu pour 14h53. « Mais t'es mieux d'appeler, on sait jamais avec le train », me dit Lynn, ma logeuse, pendant que je plie bagages. Finalement, mon voyage de retour dure plus longtemps que prévu. J'ai donc amplement le temps de constater que, plus au sud, la bordée qui a blanchi La Tuque ce matin est tombée en pluie et en verglas. Juste pour ça, ça valait la peine d'essayer ce train des neiges. C'était « La Tuque en train des neiges », un texte de Barclay Fortin paru dans le volume 28, numéro 2, hiver 2022-2023, dans le magazine Espace.
Effleurés, un texte de Michel Biron paru au printemps 2023 dans L'Inconvénient. La fatigue, écrivait Maurice Blanchot, est le plus modeste des malheurs. Sans doute parce que c'est le fardeau le plus commun qui soit, et plus encore aujourd'hui. À l'ère numérique, elle nous est si familière qu'une personne non fatiguée paraît d'emblée suspecte, comme si elle n'en faisait pas assez. Les causes sont bien sûr innombrables, et elles importent finalement assez peu tant les fatigues, pour reprendre l'expression très juste de Véronique Grenier dans un court essai consacré à ce thème, sont devenues ordinaires. C'est la vie de tous les jours qui est naturellement et presque inévitablement épuisante. Il ne s'agit pas du vieil ennui qui alourdissait la vie des esprits romantiques traînant leur langueur et leur spleen comme un signe de supériorité sur les médiocres bourgeois. L'époque contemporaine veille à ce qu'un individu le moindrement connecté ne puisse jamais s'ennuyer. C'est même là tout son malheur, comme l'explique Véronique Grenier, qui n'a pas une minute à elle entre ses obligations parentales, sa vie de professeur de philosophie et surtout la compulsion de scroller quelques heures par jour. On n'échappe pas à cette nouvelle relation au monde qui, l'air de rien, s'institue comme une ponctuation naturelle de notre quotidien. Scroller est une manière d'effleurer l'existence fragmentée d'autrui sans véritablement s'y engager, sans rien devoir, sans qu'aucune attente entre en jeu, tout en retirant des bénéfices. Peu importe si nous scrollons réellement ou non, nos vies et nos imaginations sont toutes transformées par la possibilité de ce geste si léger, qui consiste à jouer avec une souris pour voir le monde se dérouler sous nos yeux, à l'infini. Mais contrairement à nombre d'intellectuels qui dénoncent les méfaits de ces dépendances virtuelles, Véronique Grenier ne porte pas de jugement préemptoire et n'entend pas changer ses habitudes. À quelque part, la fatigue me motive à vivre des vies par procuration. Incapable de me lever de mon lit ou de mon divan, je regarde ce que font, disent et vivent des centaines de personnes que je ne connais pas. Et ça me suffit. Ça me contente. Si une philosophe se laisse prendre à ce jeu, ce n'est pas seulement parce qu'une telle fatigue est peut-être vivable malgré tout, c'est aussi qu'elle est une façon de participer au monde d'aujourd'hui, de prendre la mesure de toutes ces vies à peine effleurées. Le titre de son essai, « À bout », suggère déjà ce désir de passer d'une fatigue intellectuelle ou artistique, une fatigue d'être, comme le disait l'essayiste Jacques Baudry à propos d'écrivains québécois de l'autre siècle, à une fatigue plus triviale et plus immersive, on serait même tenté de dire à une fatigue positive ou solidaire, celle d'un jeu tourné résolument vers autrui. À la fatigue vaguement coupable de nos vies numériques s'ajoute ainsi la vertueuse fatigue de la lutte, que Véronique Grenier a elle-même éprouvée, se rappelle-t-elle, lors des manifestations étudiantes de 2012. De même pour la fatigue d'être soi, décrite par le sociologue Alain Ehrenberg, dans laquelle elle voit autre chose qu'une malédiction de notre temps, car cette panne d'énergie peut aussi être féconde et nous amener à être mieux lorsqu'on l'écoute. Le très court essai de Véronique Grenier enseigne ainsi à ne pas avoir honte de sa fatigue. Il se lit comme une dissertation un peu décousue, émaillée de références savantes, mais surtout comme un guide de mieux-être tout à fait dans l'air du temps. Une invitation à composer avec la réalité de la fatigue, à cesser de vouloir la surmonter à tout prix, puisque c'est fatigant de lutter contre la fatigue. Le dernier roman de Patrick Nicole, « J'étais juste à côté », parle lui aussi de fatigue ordinaire, celle d'un homme vieillissant qui se souvient, comme Véronique Grenier, du printemps érable, véritable horizon de sens pour une partie de la littérature québécoise contemporaine. Le roman commence ainsi en 2012, mais la chronologie importe finalement très peu tant les 21 chapitres, distribués en trois parties, semblent interchangeables. Est-ce vraiment un roman, d'ailleurs? « J'ai été juste à côté » se présente plutôt comme une série d'historiettes à la façon de Féron, quoique en plus terre-à-terre, collée à l'actualité, à la vie quotidienne de l'auteur, au cégep où il travaille, à ce qu'il entend à la radio d'État, etc. Aucune historiette n'est mémorable, et on a souvent l'impression, pour reprendre le verbe de Véronique Grenier, de scroller d'une anecdote à l'autre, en effleurant les personnages. Mais telle est sans doute la visée de ce recueil de textes écrits au fil des années ici même, dans les pages de l'Inconvénient, et remanié considérablement pour produire une étonnante unité de ton que résume parfaitement le titre « J'étais juste à côté ». À côté de qui? De quoi? Des autres, de lui-même ou de son double fictif? Les chapitres alternent entre des récits en apparence autobiographiques, écrits au jeu, et d'autres qui sont axés sur le personnage de Pierre, alter ego du jeu. Virtuose de l'autofiction, Patrick Nicole ne résiste pas au plaisir de brouiller les pistes. Le jeu et Pierre, tous deux en couple avec Julie, tous deux professeurs de littérature, sont-ils absolument identiques? Tout porte à le croire. Pierre a été opéré en raison d'une diverticulite. Le jeu fait référence plus loin à cette opération et raconte ensuite avec humour ses problèmes pour trouver au cégep une toilette où il était possible d'œuvrer en solitaire. Mais c'est comme si les deux personnages ne coïncidaient jamais entièrement l'un avec l'autre, comme si Pierre vivait à côté de lui-même, incapable d'être pleinement là. Patrick Nicole excelle à noter ces petits moments de décrochage, durant lesquels le réel, paradoxalement, se fait sentir dans toute son absurdité implacable. Vous écoutez « Nos vies effleurées », un texte de Michel Biron paru au printemps 2023 dans l'Inconvénient. Lors d'un souper chez sa collègue Mélanie, Pierre observe par exemple la table. Une mouche se pose sur l'agneau, un moustique sur la bouteille de vin. La conversation roule sans qu'il y prenne part. On arrive au fromage. Quelqu'un parle du temps qu'il fait ou qu'il fera. Ces paroles ne suffisent pas à tirer Pierre vers son corps, ses amis, son amour. La tarte sera servie sans lui. Elle se sert toute seule. Il ne revient à la réalité que lorsque Julie lui tend la main sous la table, et l'historiette s'achève ainsi. Ailleurs, lors d'un concert, même sentiment d'absence, de tristesse ontologique que Pierre partage avec Julie du début à la fin du spectacle, mais surtout à la sortie. C'est une chose qu'ils font bien ensemble, quitter une salle de concert. Ils ne disent rien, complices dans leur silence, dans leur douce tristesse. Les sentiments profonds, ça ne se dit jamais à haute voix chez Patrick Nicole, qui parlera avec la même pudeur de son attachement aux étudiants. C'est immanquable. À chaque fin de session, je suis en deuil. Pour donner du liant à son récit fragmenté, Patrick Nicole revient ici et là sur quelques personnages secondaires, comme Marianne, une ancienne étudiante de son collègue Jacques, qu'il croise chez Costco en train de faire goûter des saucisses, et plus loin dans un corridor d'hôpital. Mais c'est surtout la figure d'Amir que l'on suit au fil du roman. Chargé de cours en linguistique et nouvel ami de Julie, qui enseigne à l'université, Amir se bat pour obtenir un poste permanent et fait tout pour s'intégrer à son nouveau pays. Il connaît l'histoire du Québec comme peu de Québécois la connaissent et ne manque pas d'humour, notamment quand il donne un cours sur le joual, lui qui a l'accent du Maroc. Il ne manque pas non plus de clairvoyance quand il compare le Québec de Gérald Godin à celui d'aujourd'hui. Ses élèves connaissent-ils la honte? La honte de la confesse, la honte de l'infériorité sociale, la honte ethnique? Amir soupçonne que non. Ce sont des universitaires d'abord, et quelque chose a changé au pays de Québec. Malgré les bras ouverts de Julie et de Pierre, malgré son amour du métier de professeur, Amir ne va pas si bien. Il se retrouve bientôt obligé de trouver un nouvel emploi. « Je suis tanné de me trimballer », confiera-t-il à Julie au téléphone, après avoir appris que le poste qu'il avait déniché à l'Université Laval serait supprimé. Une semaine plus tard, on le retrouve pendu. J'étais juste à côté se lit comme un aveu d'impuissance. J'étais juste à côté d'Amir. Je n'ai rien pu faire pour le sauver, et son histoire se perd parmi les autres vies effleurées. « Les signes se refusent à moi », écrit de façon étrangement grave le narrateur. Il gise ou se dresse, illisible. Le jour où Amir est mort, les Canadiens affrontaient l'avalanche du Colorado au centre Vidéotron à Québec, avec Patrick Roy derrière le banc, vêtu du chandail des Nordiques. Une tempête gigantesque frappait l'est du continent. Le narrateur a décidé d'annuler son cours même si le cégep maintenait officiellement ses activités. Il passe l'après-midi à dormir. Ça m'arrive souvent, le détachement, la séparation. Pendant que Julie s'attarde à l'université, lui regarde le match de hockey, note des détails futiles, les coups de poing de Patrick Roy sur le logo de Subway sur la paroi derrière le banc de l'Avalanche. Il n'y a aucun rapport entre la mort d'Amir et le match de hockey, sinon la coïncidence temporelle. Cela arrive au même moment, dans la même ville, et tout le roman de Patrick Nicole est construit autour de ces superpositions de drames intimes et du dérisoire spectacle social. Le lecteur n'est jamais tout à fait dans l'un ni dans l'autre, comme si le récit hésitait toujours à pénétrer quelque part, partagé entre une colère rentrée, cette petite hargne que je traîne avec moi, et une inépuisable passion pour le trivial. Malgré l'habileté formelle, on ne ressent que de loin chacune de ces vies à peine effleurées. Le hasard veut que l'événement littéraire de l'automne 2022 au Québec ait été la réédition des romans de Régent Ducharme dans la collection Quarto de Gallimard. On y lit un long inédit, la suite de l'Océan Thume, où l'Ode Souvi et sa bande descendent le littoral atlantique vers la Floride, puis le Cap Horn, à pied, bien entendu. « Je suis morte de fatigue », se plaint la jeune narratrice. « Le poids de tout ce qui ne cesse de se donner à moi, de charger de force mes bras, m'accable, m'écrase. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'a-t-elle à me tendre tout cet azur, tous ces nuages, tous ces oiseaux, tous ces bateaux et toute cette eau? Je ne veux rien, je n'ai rien demandé. » Ce texte, que Ducharme n'a jamais trouvé assez abouti pour le publier, n'a pas le fini de ses 9 romans réunis dans cette réédition, mais ça reste du Ducharme. Tout y est à la fois magnifiquement délirant et profondément bouleversant. Les vies qu'il imagine sont tout sauf effleurées, car comme l'explique un personnage secondaire surnommé « le novateur », qui travaille à construire des pilotis pour faire rouler sa maison de l'Amérique à l'Afrique, Quand vous regardez quelque chose et que cette chose ne vous fait pas mal, c'est parce que vous ne l'appuyez pas assez fortement contre vos yeux. Appuyez davantage, toujours davantage. » Après avoir achevé péniblement son dernier roman, Gros mots, Ducharme, apprend-on dans la riche chronologie rédigée par deux amis du romancier, Monique Bertrand et Monique Jean, a passé beaucoup d'heures à se promener sur Internet pour y lire toutes sortes de choses. Sa curiosité n'a jamais faibli. Mais il n'a plus écrit un seul roman à partir de ce moment. On trouvera à ce silence définitif de nombreuses raisons d'ordre biographique. Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser que la cassure revêt une signification plus large, liée à une mutation d'ordre presque anthropologique. Tout, chez Ducharme, contredit l'idée de vies effleurées. C'était « Nos vies effleurées », un texte de Michel Biron paru au printemps 2023 dans « L'inconvénient ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et André Lebeau à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.